Chapitre 9. Monsieur Chantecoq. Lorsque, une heure après environ, le capitaine de Montfermeil pénétra dans le cabinet de travail de Monsieur Florent Avrier, il aperçut, assis en face de l'industriel, installé à son bureau, un homme de 40 à 50 ans environ, vêtu avec une sobre élégance, complètement imberbe, au profil de médaille, à l'œil vif, perçant, et à la physionomie essentiellement franche et sympathique. À sa vue, le fiancé de Martine fit « Oh, monsieur Avrier, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupé, et on ne m'avait pas dit que vous n'étiez pas seul. »« Bon, cher ami, » reprenait Florent, sans présenter d'ailleurs l'un à l'autre son visiteur et le nouveau venu, « vous pouvez tout dire devant monsieur, il est au courant de l'affaire. » Montfermeil jeta un rapide regard vers le mystérieux personnage qui se contenta d'un léger sourire accompagné d'un hochement de tête approbatif. Montfermeil, qui était encore tout ému de l'entretien qu'il venait d'avoir avec Jacques Moret, répliquait « Oh, monsieur Avrier, je tiens à vous dire tout d'abord que maintenant j'ai la conviction que Jacques Moret est innocent. » Le visiteur accentua son sourire tout en gardant toujours le silence. L'industriel reprenait. « C'est justement ce qu'était en train de me dire ce monsieur. » Et, s'adressant à ce dernier, il ajouta « Vous permettez maintenant que je dévoile à mon futur gendre votre identité ?»« Certainement, » déclarait l'inconnu. Le père de Martine reprenait. « Monsieur Chantecoq, l'illustre détective, qui, ayant appris que je lui avais téléphoné plusieurs fois pendant mon absence, a bien voulu venir dès son retour me rendre visite. Je viens de lui révéler toute la vérité et je dois vous dire que, sans la moindre hésitation, Monsieur Chantecoq, après avoir écouté religieusement, c'est le cas de le dire, a commencé par me déclarer très nettement qu'il fallait mettre immédiatement hors de cause le capitaine Jacques Moret. Oh, je n'ai pas besoin de vous dire que j'en ai ressenti une grande joie, car rien ne m'était plus douloureux que de penser qu'un homme qui vient d'illustrer si glorieusement son pays ait pu se déshonorer à ce point. Voici donc un point patiemment et nettement acquis. « Alors ?» questionnait le capitaine de Montfermeil. Martine aurait donc été, ainsi que nous l'avions pensé tout d'abord, l'objet d'un phénomène d'autosuggestion. « Mais cela est infiniment probable, » déclarait Chantecoq, « à moins que... »« Mais par exemple, je vous demanderai que ceci restât bien entre nous. »« Vous pouvez compter sur notre discrétion, » affirmait l'industriel. « Eh bien, je voulais dire, » reprenait le détective, « il se peut très bien que le véritable auteur de cet attentat se soit fait la tête du lieutenant Moret. N'auriez-vous pas par hasard sa photographie ?»« Si, si, parfaitement, » répliquait M. Avrier. Il ouvrit l'un des tiroirs de son grand bureau et y introduisit la main. « Bien, c'est bizarre, » fit-il. Je croyais avoir placé là ce portrait. Comment se fait-il qu'il ait disparu ? Chantecoq eut un léger frémissement des narines. On eût dit un limier déjà prêt à partir sur une piste. Avrier, qui semblait très surpris de ne plus trouver la photo en question, se préparait à ouvrir un autre tiroir. Mais Chantecoq l'arrêta en disant « Oh, ne vous donnez pas cette peine, monsieur !» D'ailleurs, je me rappelle fort bien avoir vu dans les journaux le portrait de ce jeune aviateur. Il a une tête assez caractéristique et somme toute assez facile à copier, surtout pour quelqu'un qui a une grande habitude des camouflages. Ainsi moi, si j'avais, enfin, mettons 20 années de moins, me chargerais de me faire la tête de Jacques Moret d'une façon tellement saisissante que vous-même, messieurs, seriez incapables de vous en apercevoir. Mais vous, monsieur Chantecoq, faisait observer Avrier, Je sais que vous êtes passé maître dans l'art du maquillage, et que sur ce point vous êtes même, dit-on, inimitable. On exagère, faisait modestement le grand détective. Certes, j'aurais mauvaise grâce à ne pas reconnaître ce qui est une partie de mon métier, que je connais à fond, mais je ne suis pas le seul à posséder ce talent. Et il se peut fort bien que l'individu qui a réussi à se faire passer pour Jacques Moret soit lui aussi un as dans ce genre. Je voulais simplement t'exprimer que si mademoiselle Avrier a eu la conviction fort explicable qu'elle a bien reconnu Jacques Moret dans l'immonde gredin qui cherchait de la violenter, il est aussi certain que ce n'est pas lui et que la bonne foi de mademoiselle Avrier est absolue. Donc complot, posait l'industriel. Oh, monsieur Avrier, n'allons pas si vite, déclarait Chantecoq, toujours avec son aimable sourire. Complot, en effet, implique l'idée de plusieurs individus associés dans un but précis. Or, à l'heure actuelle, je suis insuffisamment documenté, je n'ai pas assez eu le loisir de la réflexion pour pouvoir me faire déjà une opinion exacte à ce sujet. L'intention de vous nuire est évidente, mais est-elle faite d'un ou de plusieurs individus? Il serait bien téméraire de ma part de le préciser. L'affaire, je ne vous le cache pas, est excessivement grave et en même temps fort compliquée. Qu'allons-nous découvrir? Mon flair me répond quelque chose de formidable. Il s'agit donc de manœuvrer avec la plus grande prudence. Y a-t-il des complicités dans la place? De prime abord, cela me semble bien difficile à établir, après les renseignements si favorables que vous m'avez donnés vous-même de tous vos domestiques. Mais il faut parfois se méfier de l'eau qui dort. Je ne vous cacherai pas que mes recherches vont d'abord s'orienter de ce côté. Après, toutefois, que j'aurai eu avec le capitaine Jacques Moret une conversation au cours de laquelle je pourrais peut-être recueillir d'appréciables renseignements sur les circonstances dans lesquelles a disparu son bracelet-montre et dans lesquelles on lui a volé son échelle de corde. Monthermé intervenait. Oui, je vais d'abord une conversation nette et très explicite à ce sujet avec Moret. Bon, je ne vous parlerai pas de l'alibi qu'il m'a fourni, alibi qu'il a d'ailleurs paru discutable. Cela n'a aucune importance puisque nous sommes absolument d'accord pour le mettre entièrement hors de cause. Pour le bracelet-montre, il m'a dit que c'était en rentrant du bal offert par M. Lavrier qu'il s'est aperçu de la disparition de ce bijou. Donc, observait Chantecoq, comme s'il se parlait à lui-même, ce bracelet-montre aurait très bien pu se détacher lorsque Jacques Moret dansait, et par conséquent être subtilisé par quelqu'un qui assistait au bal. Tout à l'heure, je vous demanderai, monsieur Avrier, d'ajouter dans le dossier que vous m'avez préparé la liste aussi exacte que possible de vos invités. Bon, il y a de plus facile, cher monsieur, déclarait l'industriel. Chantecoq, qui poursuivait son enquête avec cet esprit de logique et de méthode, qui n'était pas une de ses moindres qualités, reprenait aussitôt. Maintenant, parlons un peu de l'échelle de corde. Monthermé mit au courant le détective de la scène qui s'était déroulée entre Moret et lui dans le hangar où était enfermé l'appareil. Chantecoq, que ces déclarations semblaient vivement intéressées, reprit, toujours en souriant. Ça, par exemple, voilà qui n'est pas banal. Vous me dites bien qu'il y a trois clés pour ouvrir la serrure de sûreté du hangar. Oui, parfaitement, monsieur Chantecoq. L'une est entre les mains du capitaine Moret, l'autre entre celles du mécanicien qui lui est affecté, et la troisième, enfin, confiée à la garde du concierge, un vieux soldat à l'abri de tout soupçon. Le problème donc se pose de la façon suivante. Comment le malfaiteur a-t-il pu s'introduire dans le hangar? Mon terme est déclaré. C'est ce que le capitaine Moret m'a déclaré à moi-même, incapable d'expliquer. J'en fais mon affaire, déclarait Shandcock avec une tranquillité absolue. Et il continua. Je vous remercie, capitaine, des renseignements très intéressants que vous venez de nous fournir et qui ne font que confirmer l'opinion que je m'étais faite au sujet des événements qu'avec tant de précision et d'honnêteté, M. Lavrier m'avait déjà conté. Ma besogne s'en trouve singulièrement facilitée par le temps gagné que vous me procurez. Et le temps gagné en manière de police, c'est le meilleur des auxiliaires. Il est donc inutile que je voie le capitaine Morel, du moins pour l'instant. Il ne m'apprendrait rien de plus que ce que vous m'avez dit vous-même. Vous pourriez cependant lui faire savoir que je vais partir à la chasse du ou des coupables et que j'espère bien que je ne tarderai pas à mettre la main sur son sosie. Et si je lui téléphonais tout de suite? S'écriait l'industriel. Oh non, non, pas de coup de téléphone, ayant trait à l'affaire, surtout en ce moment. Entendu, cher monsieur Shandcock, se soumettait le père de Martine, en éloignant sa main de l'appareil téléphonique qu'il s'apprêtait à décrocher. Et il ajouta, j'aurais pourtant bien voulu lui faire savoir tout de suite, en même temps que mes regrets de l'avoir soupçonné, ma joie de savoir qu'il n'a pas cessé un seul instant de mériter mon affection et mon estime. Le grand limier que le public, parmi lequel il était si populaire, avait si justement surnommé le roi des détectives, reprenait avec une autorité que tempérait une autorité charmante. Cher monsieur, oh oui, je suis sûr que cela fera encore plus de plaisir au capitaine Monneret si vous lui dites tout cela à vous-même. Bon, revenons, si vous le voulez bien, au sujet qui nous occupe. Je me vois obligé de vous poser quelques questions. Faites, je vous en prie. En plus du personnel domestique que vous m'avez énuméré, et parmi lesquels vous ne découvrez aucun suspect, n'avez-vous pas ici d'autres employés? Si, mon secrétaire, Philippe Potier. Ah, bien. Oui, j'ai commencé par vous déclarer qu'il est tombé assez gravement malade 2 jours avant que j'eusse reçu la lettre anonyme que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous dites 2 jours avant, insistait le limier. Oui, parfaitement. Bien. Sans prendre aucune note, ainsi qu'il en avait l'habitude, enregistrant dans sa prodigieuse mémoire les faits importants ainsi que les moindres détails, Shandcock poursuivait. Quel homme est-ce, Philippe Potier? Un très brave garçon, d'une intelligence moyenne, mais d'une discrétion, d'une honnêteté et d'un dévouement absolu. Depuis combien de temps est-il à votre service? Depuis 15 ans, je n'ai jamais eu de reproche à lui faire. Quel âge? 42 ans. Marié? Célibataire? De la famille? Non, entre nous, monsieur Shandcock, Potier est un enfant de l'assistance publique. Tiens, ponctua le roi des détectives. Est-ce que vous le soupçonneriez? Interrogeait Florent un peu interloqué. Non, pas plus lui que d'autres, affirmait le limier. Je me documente, voilà tout. Cela m'est indispensable, car je ne suis pas de ceux qui se lancent au hasard et sans avoir approfondi d'avance sur la première piste venue. Croyez-moi, monsieur Avrier, il n'y a pas de métier où le travail préparatoire soit plus indispensable que dans la police. Mais j'en suis convaincu, déclarait le père de Martine. Voilà pourquoi, monsieur Shandcock, ne vous gênez nullement pour me poser toutes les questions que vous jugerez utiles. Je vous répondrai toujours avec la meilleure volonté du monde, trop heureux si je puis être pour vous un utile auxiliaire. Avec cette bonne humeur cordiale qui lui conquérait immédiatement tous les cœurs, le limier répliquait: Mais vous l'êtes déjà, cher monsieur, ainsi que le capitaine de Monthermé. Vous ne vous figurez pas combien, grâce à vous deux, mon enquête marche. Je ne dis pas encore à pas le géant, mais d'un bon pas le chasseur à pied, ce qui revient presque au même. Vous m'envoyez ravi, déclarait le chef de l'escadrille des hirondelles. Jugeant que cette digression avait assez duré, Chantecoq, qui détestait changer de sujet lorsque celui qu'il traitait n'était pas entièrement épuisé, reprenait de suite avec entrain. Voulez-vous, monsieur, avouer que nous revenions à votre secrétaire? Très volontiers, répliquait Florent. Le limier précisait. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de ses qualités, mais vous ne m'avez rien dit de ses défauts. N'en aurait-il point? Aussi quelques-uns. Lesquels? Sans la moindre hésitation, l'industriel révélait. Oh, il est d'abord vieux garçon, durci, assez renfermé, cachottier même. Cela sans doute tient à ce qu'il n'a jamais eu de parents et qu'il a été rudement élevé par des étrangers qui lui ont jamais témoigné aucune affection. Ainsi, depuis qu'il est chez moi, j'ai jamais pu savoir où il passait ses dimanches. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il m'a toujours répondu d'une façon évasive. Je crois qu'il écrit des tragédies en vers. Un jour, j'ai trouvé sur sa table un cahier qu'il avait laissé là par mégarde. J'ai eu la curiosité de l'ouvrir et j'ai lu en grosse écriture, moulée à l'encre rouge, ce titre: Le fils de Salammbô. Drame en cinq actes en vers, destiné à la Comédie-Française ou au pis-aller à l'Odéon. Passion très innocente, soulignait Monthermé. En effet, reconnaissait Avrier. Aussi, pour ne pas faroucher sa modestie, je lui ai dit le lendemain en lui remettant son cahier: Oh, hier, potier, vous avez oublié ceci. Le pauvre diable a rougi jusqu'aux dernières des oreilles, et d'une voix timide et presque bégayante, il m'a demandé: Monsieur, avez-vous lu? Non, mon cher ami, lui ai-je dit. Je n'ai ni eu le temps ni l'idée de feuilleter ces pages. Et afin de le rassurer, j'ai ajouté: Est-ce que par hasard, mon cher potier, vous écririez vos mémoires? La lourdeur rouge, il est devenu écarlate et il a littéralement bafouillé. Oh non, monsieur, ce ne sont pas mes mémoires, ce sont des bagatelles. Et brusquement, il a remis sa bagatelle dans la poche de son veston. C'est donc un timide, concluait Chantecoq. Plus qu'un timide. Quand je l'invite à déjeuner, même dans l'intimité, il ne sait plus où se fourrer. Il ose à peine toucher aux mets qui sont dans son assiette. Sa main tremble en approchant son verre de sa bouche. Il est même arrivé au cours des repas d'appeler ma femme mademoiselle et ma fille madame. Mais il est complet, oh plus que complet, mais ainsi que vous le voyez, monsieur Chantecoq, ce sont plutôt des travers que des défauts. Il ne joue pas aux courses? Lui, au risque d'un centime sur un cheval, je crois qu'il préférait encore le donner à un pauvre, bien qu'il ne brille pas précisément par la générosité. Donc il est d'une avarice que l'on pourrait qualifier de sordide. Bon, je suis obligé de le reconnaître. Lui connaît-on des maîtresses? Bon, non, aucune. Bon, pour un poète, ou plutôt, non, un homme qui a la prétention de l'être, voilà qui n'est pas banal. Bon, c'est un original, définissait l'industriel, un faiseur de rêves, ou plutôt songe vivant. Mon cher Alban, vous qui le connaissez bien, n'est-ce pas que c'est tout à fait cela? Oh, tout à fait, approuvait le capitaine. Chantecoq écoutait avec une attention toujours aussi soutenue M. Avrier, qui continuait. Attendez, je me rappelle la réponse qu'il me fit un jour, réponse qui mieux que tout vous dépeindra le bonhomme. Comme je lui demandais s'il n'avait jamais été amoureux, il eut un sursaut et, levant les yeux au ciel, il me répondit, en poussant un profond soupir, « Oui, monsieur Avrier, je suis amoureux, amoureux d'une étoile. » Et il ajouta cette phrase qu'il semblait puiser tout au fond de lui-même, « Mais les étoiles ne s'accrochent qu'au firmament ou sur la poitrine des braves. » Et il s'enfuit en s'essuyant les yeux. Moi, je ne me suis plus jamais permis de renouveler cette question, car je me suis aperçu que je lui avais fait de la peine. Chantecoq reprenait. Ainsi qu'un vers l'a chanté dans son immortel sonnet, son âme a son secret, son cœur a son mystère. L'étoile en question, fit le père de Martine, est peut-être une gentille petite blanchisseuse ou une plante heureuse crémière. Qui sait, fit le détective. Enfin, c'est sur l'affaire. Puis, revenant aux interrogations directes, il scanda. Et où demeure-t-il? À Montmartre, 37 rue Le Pic. Lorsqu'il est bien portant, il vient ici tous les jours. Tous les matins, à 9h, il est là. Il ouvre le courrier, me le communique. Je lui dicte mes réponses et l'après-midi, il est à la machine. Dans cette pièce? Non, dans un petit bureau attenant au mien. Puis-je y jeter un coup d'œil? Oh, très volontiers. Florent se leva et s'en fit ouvrir une petite porte qui se trouvait placée derrière lui. Chantecoq s'approcha, jeta un coup d'œil dans la pièce assez exiguë qui servait de bureau au secrétaire de l'industriel. Elle renfermait une table qui supportait une machine à écrire, recouverte de sa housse en cuir, un fauteuil en bois recourbé, deux chaises et un cartonnier. « Parfait !» déclarait le détective, dont l'œil si instinctivement investigateur n'avait rien laissé dans l'ombre. Quand il eut terminé son rapide examen, il reprit « Tout à l'heure, monsieur Avrier, vous me disiez que votre secrétaire était tombé malade 2 jours avant que vous eussiez reçu la première lettre anonyme. C'est cela même. Et depuis ce moment, monsieur Potier a-t-il reparu chez vous? Non, monsieur, chaque fois je fais prendre de ses nouvelles. La brave femme qui fait son ménage a déclaré à mon envoyé que M. Potier était atteint d'une fluxion de poitrine et qu'il en avait au moins pour 3 semaines avant de se rétablir. Si je n'avais pas été très pris et ensuite très troublé par le drame mystérieux qui vient de se passer dans ma maison, je serais certainement allé le voir. Bon, si cet après-midi ou demain j'ai un instant à moi, je le ferai de grand cœur. M. Avrier, reprenait le détective avec gravité, puis-je vous demander de vous abstenir de cette visite? Mais, monsieur Chantecoq, je ne vous saisis pas très bien. Vous venez de m'affirmer que vous n'aviez aucun soupçon à l'égard de Potier. Puis-je, à mon tour, vous prier de me dire pourquoi vous ne tenez pas à ce que je me rende auprès de lui? Avec une rondeur bien faite pour inspirer la confiance, le grand Limier ripostait. « Cher monsieur, j'ai une déclaration de principe à vous faire. Je suis très méthodique, très maniaque, si vous le préférez. Ne vous froissez pas, surtout, de ce que je vais vous dire. Je serais si désolé de vous déplaire. Je demande au contraire que vous êtes agréable. Mais voilà, quand je suis ce qu'on appelle en action, je m'interdis rigoureusement de répondre aux questions que l'on me pose, parce que cela risque de me troubler, de me dérouter, de me distraire, et surtout de m'inspirer des avis ou des indications, des suggestions qui, par le fait qu'ils sont actifs, risquent de me lancer sur une mauvaise route. Laissez-moi, à ce sujet, vous raconter une brève anecdote. Un jour, le roi, de l'un de nos plus grands pays d'Europe, me fait venir dans le secret le plus absolu et me charge de débrouiller, toujours dans le plus grand mystère, une énigme familiale qui n'était pas sans l'inquiéter vivement. Je me mets au travail. Le lendemain, le roi me fait venir et me questionne. Je lui réponds, « Oh, sire, je ne puis encore rien vous dire. » Sa Majesté le prend de très haut et s'écrie, « Sachez, monsieur, qu'un roi doit tout savoir. » Vexé du tac au tac, je lui réponds, « Alors, sire, pourquoi m'avez-vous fait venir ?» Avrillé, amusé, demandait, « Et qu'a répondu le roi ?»« Bah, il a d'abord tiqué assez fortement, » répliqua le détective. Puis, comme Pandore à son brigadier, il m'a dit, « Monsieur Chantecoq, vous avez raison. » L'industriel, littéralement conquis par le grand limier, s'exclama, « Comme je ne veux pas être plus royaliste que le roi, je m'engage à ne plus vous poser de questions. » « Et moi ?» déclarait le grand limier. Enchanté d'avoir été tout de suite si bien compris, je m'engage à tout mettre en œuvre, non seulement pour vous débarrasser de vos ennemis, mais encore pour vous donner le moyen de leur procurer le châtiment qu'ils méritent. Ici, le policier martela avec force. Au cours de ma déjà longue carrière, j'ai été appelé à faire la connaissance d'un certain nombre de criminels et d'en aider beaucoup, les uns à porter leur tête sur l'échafaud, les autres à s'embarquer pour la Guyane ou à séjourner pendant plus d'un mois d'année dans des établissements pénitentiaires, qui, quoi qu'on en dise, n'auront aucune espèce de rapport avec un casino, même de dernière catégorie. Eh bien, messieurs, rarement j'ai été autant révolté que par l'attentat abominable dont Madame Avrillé était certainement victime, si elle ne s'était pas défendue avec un courage admirable contre son agresseur. Et savez-vous pourquoi? D'abord parce que je ne trouve rien de plus abject que de chercher à briser les cœurs d'un père et d'une mère en s'attaquant ignoblement, sauvagement à l'honneur de leur fille. Mais parce que je juge non moins infâme de s'ingénier à traîner dans la boue et à faire passer pour le plus lâche des criminels un jeune aviateur, un officier français, qui, en se couvrant de la gloire la plus pure et la plus rayonnante, n'a pas fait que s'illustrer lui-même et a encore grandi son pays. Voilà pourquoi j'ai accepté avec tant d'enthousiasme, tant de ferveur, la mission dont M. Avrillé a bien voulu vous charger. J'ose espérer que je me montrerai digne de sa confiance. » Spontanément, l'industriel tendit la main à Chantecoq, qui s'en empara et la serra chaleureusement, ainsi que celle du capitaine de Montarmé, qui s'écria « Oh, je vous remercie, monsieur, pour ma fiancée et aussi pour l'aviation française. Avant de me remercier, mon cher ami, attendez que j'ai réussi. »« Vous réussirez, j'en suis sûr, » s'écria le fiancé de Martine. « Jusqu'ici, observait Florent, n'avez-vous pas toujours été vainqueur ?»« Un de mes principes, déclarait modestement Chantecoq, est de ne jamais vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit à terre. » Montarmé lançait. « Mais quoi qu'il en soit, je préférerais être dans votre peau que dans celle de l'ours, d'abord parce que je serais dans celle d'un honnête homme, puis parce que, si habile, si retors, si peu scrupuleux, soit nos adversaires, je connais trop bien la longue et brillante série de vos exploits pour ne pas être convaincu que très promptement vous aurez éclairci, comme dit Balzac, cette ténébreuse affaire. Je suis très flatté, capitaine, de l'opinion que vous avez de moi, mais jusqu'à présent, je marche presque à tâtons. C'est à peine si je viens d'allumer ma lanterne. Cependant, sans trop m'avancer, je puis déjà vous dire que, malgré l'obscurité presque complète qui m'environne, je crois apercevoir cependant, au lointain, quelques petites lueurs qui ne sont pas précisément de mauvais augure. « Bravo !» s'écria Tavrier. Monterney allait poser une question au détective, mais se rappelant la déclaration de principe que ce dernier venait de leur faire, il l'arrêta à temps et se contenta d'ajouter en écho « Bravo, bravo !» Chantecoq reprenait « Maintenant, bon, assez discuté et raisonné. Des paroles passent aux actes. Monsieur Tavrier, je viens vous prier de me compter les lettres anonymes que vous m'avez communiquées tout à l'heure. Les voici, acquiesçait l'industriel, en remettant au policier une chemise qui contenait les chargements en question. Chantecoq reprenait. Vous serez très reconnaissant si vous vouliez me donner aussi la liste des invités qui assistaient à votre bal. Florent ouvrit un tiroir de sa table et en sortit un dossier méticuleusement rangé, d'où il retira plusieurs feuillets dactylographiés qu'il remit au limier. Et celui-ci déclarait en souriant « Avec cela, j'ai de quoi m'amuser. » Mais ce n'est pas tout, il s'agit maintenant de réaliser au plus vite. Monsieur Avrillier, vous allez dire que si je refuse de répondre aux questions, moi j'en pose de très nombreuses et surtout même de très indiscrètes. Ben, il le faut, monsieur Chantecoq, tout dans l'intérêt de la vérité. Le détective reprenait. Alors je n'éprouve plus aucun scrupule à vous demander. Si parmi vos parents et vos amis de province ou de l'étranger, il n'en est pas un qui ne soit pas connu de Madame Avrillier, ni de Mademoiselle Martine, ni d'aucun de vos serviteurs. » L'industriel chercha un instant dans sa mémoire, puis il reprit. « Ben, je ne vois pas ça tout de suite. Vous êtes bien en correspondance ou en relation d'affaires avec le directeur d'une importante maison anglaise, américaine ou autre. Oui. Alors, tout va coller admirablement. Il faut que vous annonciez à Madame Avrillier, dans l'après-midi, que vous avez reçu un télégramme d'un constructeur d'avions anglais, Sir Robertson, qui vient s'entendre avec vous au sujet d'une collaboration éventuelle. Et ce Robert ne sera autre que moi. Naturellement, vous m'inviterez à descendre chez vous et j'accepterai après avoir fait pour la forme quelques petites difficultés. Vous me donnerez une chambre, celle qui vous conviendra le mieux, et vous l'aurez comme laissé faire. C'est entendu, monsieur Chantecoq, acceptait Florent, et soyez sûr que je serai enchanté de vous avoir comme hôte. Même sous les traits d'un collègue britannique que je ne connais d'ailleurs ni d'Ève ni d'Adam, puisqu'il n'existe que dans votre fertile imagination. J'arriverai vers 7 heures avec mes malles, et je dînerai donc à votre table. Vous voyez comme je suis indiscret. Mais pas du tout. Ah, j'ai encore une autre requête à vous adresser. Dans l'affaire qui nous occupe, je vais avoir besoin de la collaboration de mon secrétaire, un garçon extrêmement intelligent, habile, sérieux et dévoué, qui connaît mes habitudes et parfois même devine ma pensée sans que j'aie besoin de l'exprimer. Je l'ai surnommé Météore parce que, bien qu'il ne soit doué d'aucune faculté surnaturelle, il a le don tout précieux et tout particulier de paraître ou de disparaître avec une facilité ébouriffante. Vous le croyez là, devant vous, près de votre table de travail? Eh bien oui, et il est au premier étage, en train de se faire la barbe ou bien de se camoufler. Vous figurez qu'il est dans la rue, près de vous? Pas du tout. Il a déjà franchi la chaussée, il est en train d'observer les allées et venues d'un individu qui lui paraît sujet à caution. Vous croyez, au contraire, qu'il est loin, très loin, dans un quartier excentrique de Paris, ou même dans un coin retiré de la banlieue. Erreur! Météor est là, en face de vous, il vous parle, il vous renseigne, il vous demande des directives, toujours prêt à repartir et à repartir avec la même étourdissante rapidité. Oh, je vois en effet, monsieur Shandcock, soulignait Montrermé, mais que vous avez en ce météore un collaborateur inestimable. Oui, c'est ainsi que je le juge, et voilà pourquoi, dans des expéditions aussi délicates que celle-ci, je ne m'en sépare jamais. Rien de plus simple, observait Florent. Vous n'avez qu'à le faire passer pour votre secrétaire. Je le recevrai avec beaucoup de plaisir. Je mettrai même à sa disposition une chambre voisine de la vôtre. Je vous remercie infiniment de votre obligeance, s'écriait Shandcock. Mais j'ai une autre proposition à vous faire. Je préférerais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, qu'au lieu que Météor passât pour mon secrétaire, il fût, pendant le temps qui me sera nécessaire, considéré comme le vôtre. Comme il vous plaira, consentait l'industriel. En ce cas, poursuivait le limier, il ne se présentera que demain matin vers 9 heures pour remplacer Monsieur Potier. Vous n'aurez qu'à faire semblant de lui dicter votre courrier. Ah, au fait, j'y pense. Vous aviez peut-être déjà donné un remplaçant à votre secrétaire défaillant. Non, répliquait Florent Vrier. J'emportais tous les jours mon courrier à l'usine où le dactylo de mon ingénieur en chef se chargeait de cette besogne. Très bien, ponctuait le détective. Eh bien, pour aujourd'hui, je ne vois pas autre chose à vous dire ni à vous demander. Je vais donc rentrer chez moi, me maquiller en industriel anglais, et à 7 heures sonnant, je sonnerai à votre porte. Entendu, monsieur Shancock. Vous voyez que je ne vous ai plus posé aucune question. Êtes-vous satisfait de moi? Modestement, le roi des détectives ripostait. Oh, je voudrais l'être autant de moi-même. Un dernier mot, cependant. Vous avez peut-être été surpris que je vous demande de ne pas révéler ma véritable identité à Madame Avrier. J'ai pensé, monsieur Shandcock, que vous deviez avoir pour cela une bonne raison. Oh, je n'en ai qu'une. J'estime que, dans une affaire aussi grave et si grande soit la confiance que l'on puisse avoir envers ceux et celles qui vous entourent, il est préférable de ne mettre que le minimum de personnes dans ses confidences. Je vous prie donc instamment de ne point parler de moi à Madame Avrier, ni à Mademoiselle. Oh, la pauvre petite, déclarait Florent, elle ne serait guère en état de vous entendre. Elle est plongée depuis ce matin dans une sorte d'état cataleptique. Malgré les affirmations si sûres de mon médecin, cela n'est pas sans m'inquiéter. Il doit y avoir ce soir une consultation entre le professeur Sérion et notre docteur. Je souhaite, déclarait Shandcock avec sincérité, que les pronostics de votre docteur soient exacts et que bientôt Mademoiselle Avrier, délivrée de l'affreux cauchemar qui doit si cruellement, si obstinément la hanter, retrouve à la fois le repos de son esprit, toute sa santé, toute sa jeunesse. Montfermeil, à ces mots, exprimait une profonde émotion. Et Shattercock n'était pas homme à s'attarder en effusion, si touchante soit-elle. Déjà, il prenait congé de l'industriel et du capitaine, qui de nouveau lui serrèrent cordialement la main. Lorsqu'Alban de Montfermeil fut seul avec son beau-père, il lui dit: Oh, ce détective a produit sur moi une excellente impression. Moi aussi, appuya le père de Martine. Et il ajouta: Oh, je ne serais pas autrement surpris qu'il fût déjà sur la route de la vérité. Comme il prononçait ces mots, Madame Avrier apparut subitement dans le bureau. Cette fois, son visage ne portait aucune trace de bouleversement ni d'épouvante. L'espérance, au contraire, illuminait son beau visage Et tout de suite elle s'écria. Martine vient de revenir à elle. Venez vite, car elle vous demande tous les deux. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre de Martine, la jeune fille était assise dans son lit, le visage déjà beaucoup moins pâle, les yeux toujours fermés, et la tête languissamment appuyée sur les oreillers. Elle tendit vers son père et son fiancé une main encore lasse, si lasse qu'aussitôt elle laissa retomber auprès d'elle. Florence précipita vers sa fille et la serra tendrement dans ses bras. Puis, s'effaçant, il laissa Alban s'approcher d'elle. Celui-ci lui prit la main et, avec ferveur, y appuya ses lèvres. À ce contact, il ne put réprimer un léger tressaillement. Il venait d'avoir l'impression qu'elle avait embrassé une morte. « Alors, interrogeait M. Avrier, te sens-tu un peu mieux, ma chérie ?»«
Oui, père. »
répondait la jeune fille d'une voix faible, tandis que sa mère, délicatement, ménageant bien tous ses gestes, relevait légèrement les oreillers. Avec effort, Martine poursuivit.
« Tout à l'heure, lorsque je suis revenue à moi, et que je me suis retrouvée dans ma chambre, oh, je n'en croyais pas mes yeux. » Car ce matin, lorsque j'ai perdu connaissance dans les bras de ma chère petite maman, j'avais eu l'impression que mon âme me quittait, que je mourais, que j'étais morte. Il s'est produit alors une chose tout à fait étrange. Je me suis vue étendue sur un lit, inerte, toute blanche, comme si on n'attendait plus que l'instant de m'ensevelir. Maman pleurait tendrement, penchée sur moi. Je l'ai entendue m'appeler, et je l'ai sentie me prodiguer ses soins, cherchant à me faire revenir à moi, puis s'éloigner, aller dans le studio, partir affolée, revenir avec vous, et je vous ai vus tous les deux, toi, père et vous, Alban. La douleur était sur vos visages, et maman pourtant ne m'a rien dit. N'est-ce pas, mère, que tu ne m'as rien dit ?
Non, ma chérie. Vous êtes bien allée dans le studio, n'est-ce pas, pendant que le docteur m'examinait ?
Je pourrais même répéter les paroles qu'il a prononcées. Je l'ai très très bien entendue. La preuve ? C'est que ce soir, il doit revenir avec le professeur Sérillon. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? On aurait dit que j'avais un don de double vue, ou plutôt que j'étais comme dédoublé, que d'un côté, il y avait mon corps et de l'autre, mon âme. Et tandis que l'un demeurait là, figé, inutile, paralysé, sans vie, l'autre, au contraire, se montrait d'une activité agissante que je ne lui avais jamais connue.
« Il faudra dire tout cela ce soir au docteur, » conseillait M. Avrier.
« Oh, les docteurs, je ne veux pas les voir, » déclarait Martine avec énervement. « Et pourquoi ?» questionnait sa mère. « Parce que maintenant, je sens que je n'ai plus besoin de leurs soins. Demain, tu verras, mère, j'irai bien, tout à fait bien. Savez-vous ce qui me rappelle ainsi à l'existence et qui va me rendre mes forces ? C'est la pensée que l'homme qui s'est attaqué à moi ne tardera pas à être à jamais flétri par la justice et par l'opinion publique.
Martine, s'écria Alban dans un élan de loyauté magnifique, laissez-moi vous dire que Jacques Moret. Mais d'un coup d'œil rapide et impérieux, l'industriel lui imposait le silence. Tour à tour, Martine regarda son père d'un air à la fois méfiant et étonné. Monsieur Avrier reprenait. « Ma chère enfant, Alban voulait dire que le capitaine Moret n'est pas encore arrêté. »«
Ah, et pourquoi ?» questionnait Martine.
« Parce que, répondait son père,
Nous avons préféré ne pas porter une plainte officielle contre lui.
Mais pourquoi?
Questionnait Martine. Monthermé, qui avait compris du premier coup la tactique de son futur beau-père, répliquait, certain cette fois d'être approuvé par lui: Mais nous avons jugé, ma chère Martine, votre père et moi, qu'il était aussi dangereux qu'inutile de jeter votre nom en pâture à la malignité publique en étalant un scandale dont nos ennemis seraient tirés contre nous un parti regrettable.
Alors, s'écriait Martine, Monsieur Jacques Meret ne sera pas puni.
Ma chère enfant, intervenait Avrillé, tu n'es pas encore assez forte pour pouvoir soutenir davantage une conversation aussi pénible pour toi. Fais-nous crédit à ton fiancé et à moi, et tu ne donneras pas à apprendre que non seulement ton honneur n'aura pas même été éclaboussé de la moindre tâche, mais encore que celui qui a voulu te ternir d'une honte ineffaçable a expié son affreux forfait. Cette adroite réponse parut apaiser les inquiétudes de Martine, et détournant sa mère, qui n'avait pas quitté son chevet, demanda:
Mère, je voudrais bien prendre quelque chose qui me réconforte, car je ne voudrais pas retomber de nouveau dans ces ténèbres, dans ce néant qui m'est apparu comme l'antichambre de la mort. C'est si épouvantable de se sentir s'en aller ainsi. Mais que désires-tu prendre? Interrogeait la mère, tendrement empressée. Un peu de bouillon, cela me fera du bien, cela me réchauffera, car je me sens encore très froide à l'intérieur. J'ai l'impression que pendant plusieurs heures j'ai été en marbre.
Madame Avrillé s'en fut sonner la femme de chambre. Son mari se pencha vers Martine et lui dit: Nous allons te laisser, Alban et moi, car tu dois avoir encore besoin de repos.
Ah oui, c'est vrai, je suis anéantie, dit la jeune fille que l'on devinait encore toute brisée.
Et elle ajouta d'une voix dolente:
Merci d'être venu. Je vous aime tant tous les deux. Vous reviendrez ce soir, n'est-ce pas? Me tenir un peu compagnie. Oh, j'espère bien être debout demain.
Ne va pas trop vite, conseillait Florent. Pas d'imprudence, appuyait le capitaine.
En attendant, père, souriait vaguement Martine, tu seras bien gentil de téléphoner tout de suite au docteur Ramey, que lui, je veux bien le voir, mais je ne veux pas entendre parler de ses rayons.
Et pourquoi?
Parce que je n'ai plus rien, rien.
Ne l'énerve pas, intervenait Antoinette Avrillé. Elle a encore besoin de grands ménagements. Nous partons, décida l'industriel, trop heureux de voir sa fille aussi promptement revenue à un état normal pour insister davantage. Il s'enfuit avec Monthermé, qui guettait sur les lèvres de sa fiancée une parole qui eût achevé d'apaiser ses craintes, d'effacer toutes ses angoisses. Mais la jeune fille fit simplement:
Au revoir, Alban.
Dans cet au revoir, le jeune officier put remarquer une expression de profonde tristesse. Instinctivement, son cœur se serra. Mais Avrillé, le prenant par le bras, l'entraînait en disant: Bon, je crois que cette fois, tout va s'arranger au-delà de nos espérances. Martine commence à échapper à l'empreinte du cauchemar qu'elle a vécu. Chantecoq s'est formellement engagé à nous livrer promptement le ou les coupables. Maintenant, mon cher Alban, nous pouvons être tranquilles. Il ne nous reste plus qu'à aller trouver ce malheureux Jacques Moret, que nous avons si injustement accusé, et à lui dire combien nous sommes heureux d'être sûrs à présent de son innocence. D'une voix un peu embarrassée, Monthermé disait à son futur beau-père: Puis-je vous demander Cher monsieur, pourquoi vous n'avez pas voulu tout à l'heure révéler à Martine que ce n'était pas Jacques Moret qui avait pénétré dans sa chambre? L'industriel répondait: Mais rappelez-vous les recommandations que nous a faites ce matin le docteur Ramet. L'officier faisait: Oui, je me souviens, il nous a dit surtout de la laisser tranquille. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu me lancer dans des explications qui l'eussent forcément beaucoup fatigué. Qui sait même si, encore sous l'influence de ce qu'elle a cru voir, de ce qu'elle a vu, elle aurait admis qu'elle avait commis une erreur ou qu'elle avait été trompée. En tout cas, il valait mieux éviter à tout prix une discussion à ce sujet entre elle et nous. Quoi qu'elle leur dise, elle a encore besoin de beaucoup de ménagement. Et il est indispensable de lui éviter, jusqu'à nouvel ordre, toute émotion prématurée. Lorsque Chantecoq aura découvert le véritable criminel, nous la mettrons en face de la vérité, de l'évidence. C'est, je le crois, beaucoup plus prudent. En effet, reconnaissait Alban, je n'avais pas pensé à tout cela. Monsieur Avrier, vous êtes la sagesse même. Mais dites-moi, allez-vous, conformément au désir exprimé par Martine, contremander la consultation qui doit avoir lieu ce soir? Bon, je vais téléphoner tout de suite au docteur Ramet. Ensuite, nous filerons jusqu'à Sartrouville, où doit se trouver Jacques Moret. Car j'ai hâte de le voir et de mettre un point final à l'horrible malentendu qui a failli nous séparer à tout jamais. L'industriel se rendit dans son cabinet de travail avec son futur gendre. Il se dirigeait vers son bureau, sur lequel se trouvait placé un appareil téléphonique, lorsqu'il aperçut, étalé sur un buvard, une enveloppe blanche qui portait son adresse tapée à la machine et accompagnée de cette double mention « urgente et personnelle ». Il l'ouvrit aussitôt à l'aide d'un coupe-papier et il en retira une feuille de papier pliée en quatre sur laquelle ces lignes étaient dactylographiées. « Monsieur Avrier, je viens de voir, sortant de chez vous, le fameux policier privé Chantecoq, dit le roi des détectives. Monsieur Chantecoq vous a dit, car si je vois là tout, j'entends tout également, donc, M. Chantecoq vous a dit que ce n'était pas le capitaine Jacques Moret qui s'était introduit nuitamment auprès de mademoiselle votre fille et avait cherché à la violenter, mais que c'était l'agent de l'un de vos ennemis qui s'était fait la tête de jeune et célèbre aviateur. Décidément, ce détective est doué d'une imagination qu'en viraient bien des romanciers. L'affaire que je connais bien est beaucoup plus simple. Aussi, je vous conseille vivement de prier M. Chantecoq de rester chez lui. Et cela, dans votre intérêt et dans celui de mademoiselle votre fille. En persistant à vouloir rechercher une vérité qui vaut beaucoup mieux pour vous ne pas connaître, vous risquez de provoquer un scandale dans votre honneur ainsi que celui de la charmante fiancée d'Alban de Monthermé, risque d'être à jamais éclaboussé d'une honte ineffaçable. Un ami sincère. Le père de Martine, qui avait lu le message avec une stupeur croissante, le passa au capitaine en disant « Prenez connaissance, mon cher, car cela dépasse vraiment les bornes de tout. » Lorsque Monthermé, non moins stupéfait que Florent, eut terminé sa lecture, il s'écria « Mais c'est inouï! Il y a une demi-heure que Chantecoq est parti. » « Oui, mettons trois quarts d'heure. » « Et voilà que déjà une lettre vous parvient, établissant d'une façon péremptoire que la conversation que vous avez eue avec le détective a été entendue. Mais ici le mur a donc des oreilles. » Et s'animant de plus en plus, le fiancé de Martine scanda. Mais nos ennemis ont certainement ici un complice, un espion. Et espérons que Shancock ne tardera pas à le découvrir. En attendant, nous pouvons toujours chercher à savoir qui a déposé cette lettre dans votre bureau. Tout en reprenant la missive que lui tendait Alban et en la serrant dans son portefeuille, M. Avrier déclarait « Non, ne bougeons pas, au contraire. Jean de Coq sera ici à 7 heures. Mais, j'y songe, si l'auteur de cette lettre a, comme il le prétend, et cela doit être, entendu notre conversation avec le détective, celui-ci est grillé et il lui devient impossible de réaliser ce personnage d'industriel anglais grâce auquel il comptait s'introduire chez moi en toute sécurité. Il va falloir aussi qu'il renonce à remplacer mon secrétaire par le sien. Évidemment, appuyait Alban de Montermé. Et il ajouta, voilà un avatar qui va déranger bien malencontreusement les plans de Shancock. Il faut le prévenir tout de suite, décidait l'industriel. Par téléphone. Oh non, ce serait imprudent. Lui écrire. Non, cela demanderait trop de temps. Je vais plutôt me rendre chez lui tout de suite. Vous, mon cher Alban, filez vite à Sartrouville. Rejoignez Moret. Dites-lui de ma part les mots que vous sentez aussi bien que moi-même. Et revenez ici. Je vous mettrai alors au courant de ce qu'aura décidé Shancock. C'est entendu, cher monsieur. Ils se séparèrent, l'un pour filer jusqu'à l'usine dans sa rapide torpédosport, l'autre pour gagner l'avenue de Vergy, qui donne avenue des Ternes et où demeurait le roi des détectives.